Voilà, merci de cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis content d'avoir répondu à l'invitation du Nartex pour cette quinzaine, effectivement, sur ce thème d'une économie autrement. Et la commande, comme toujours, on essaye de préciser quand même les choses. On s'est arrêté sur ce titre que je vais essayer d'honorer, donc... voilà, d'interroger l'économie en tant que chrétien. Et je vais le faire en suivant le plan suivant d'intervention. Déjà, voilà, prendre au sérieux cette idée quand on dit interroger l'économie en tant que chrétien, qu'est-ce à dire? Qu'est-ce que ça veut dire interroger l'économie? Et qu'est-ce que ça veut dire l'interroger en tant que chrétien? Donc on va passer quand même un certain temps sur ce premier moment de la réflexion. Ensuite, interroger l'économie en tant que chrétien, oui, mais avec quelles ressources? Donc, je vous proposerai, voilà, d'essayer de ressaisir, ça ne sera qu'une ressaisie, on aura un temps d'échange après, si vous voulez qu'on approfondisse tel ou tel aspect, ce que peut considérer comme des fondements pour un questionnement éthique de l'économie, puisque c'est bien sur ce type de questionnement que... comme chrétiens, nous allons interroger l'économie. Alors avec d'autres qui ne sont pas chrétiens et qui peuvent interroger l'économie, mais nous, comme chrétiens, quels fondements avons-nous pour entrer dans un questionnement éthique autour de l'économie? Et puis, nous terminerons plus brièvement en essayant, voilà, d'ébaucher les traits d'une économie réellement au service de l'homme. Hein, on va le dire très vite, évidemment, on n'a pas de solution clé en main à proposer en tant que tel, mais on a sans doute des choses à dire sur, à grands traits, quelles seraient les attentes que nous pouvons avoir au nom et en fidélité à l'Évangile, donc au nom de cet Évangile pour une économie au service de l'homme. Voilà, je commence donc mon propos par ce premier point, interroger l'économie en tant que chrétien, qu'est-ce à dire ? Donc vous savez, cette quinzaine en est une illustration, que il y a un questionnement de l'économie qui est à la mode. Bon, je dirais on peut s'en réjouir. Hein. C'est à la mode et c'est vrai qu'on peut diaboliser assez facilement aujourd'hui, de nos jours, l'économie triomphante, hein, comme certains l'appellent. Là, je vais donner des titres parce qu'il y a aussi une actualité éditoriale importante. Là, je fais référence à un titre d'Albert Jacquard. On peut stigmatiser l'horreur économique. C'est un ouvrage de Viviane Forrester. Et c'est vrai que ce genre de slogan est évidemment compréhensible dans le contexte des dérives actuelles du capitalisme financier. C'est vrai donc aussi que nous sommes un peu noyés sous... des publications diverses et variées concernant cette crise financière, cette crise économique et tout ce qui l'accompagne. Et on pourrait penser effectivement que tout a déjà été écrit ou presque. J'en profite pour préciser concernant le statut qui sera celui de ma parole que je ne suis pas économiste. Voilà, j'enseigne dans le champ de l'éthique chrétienne, ce qu'on appelle dans le jargon universitaire la théologie morale, dans le champ social et politique, mais je ne suis pas économiste moi-même. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire, si j'ose l'expression, de venir en remettre une couche pour parler de ça, alors que tant et tant de personnes compétentes peuvent nous parler de la crise financière et de toutes les questions qui vont avec des compétences économiques. Eh bien justement, pour nous, chrétiens, il s'agit de voir comment articuler les choses, je dirais, comment être présent dans cette réflexion sur une réalité, je crois, et c'est là-dessus que je vais déjà insister, qu'il ne faut pas aborder de façon monolithique, en tout cas ne pas vouloir critiquer de façon monolithique cette économie avec laquelle on peut entrer en débat. Et bien sûr, on le fait par rapport à notre foi et à un souci, et au souci de l'homme que suppose et implique cette foi. Car je ne donnerai pas réellement de définition de l'économie, mais on peut être d'accord, je pense, sur le fait qu'en son sens le plus fondamental, eh bien, l'économie renvoie à l'idée de la gestion d'un collectif, et d'un collectif humain, ça va sans dire, et de cela, oui, les chrétiens ne peuvent se désintéresser au nom même de leur foi, c'est ce qu'on va aussi essayer de développer un peu. Donc, je passe au point suivant qui va nous permettre d'essayer de répondre à cette question. Donc, comment interroger l'économie en tant que chrétien au titre, justement, d'une compréhension de l'économie qui n'est pas neutre. Je m'explique sur ce point. Dans une réflexion dans le champ social, la compréhension des phénomènes qu'on essaye de comprendre n'est pas neutre et peut être abordée selon divers plans. Alors, face au domaine de l'économie, je vous propose d'envisager trois plans qui vont constituer autant de points de vue pour une interrogation. Parce qu'encore une fois, l'économie, on en parle souvent de façon généraliste et globalisante. Quand on parle d'économie dans notre monde aujourd'hui, déjà l'économie, c'est l'économie au plan des doctrines et des théories économiques. On est dans l'ordre d'un savoir spécifique avec un statut quand même particulier. C'est un savoir qui s'appuie sur des modèles. On a des sciences économiques, mais c'est un savoir qui a un statut visant à une application, à des pratiques, qui a même pas simplement pour fonction de décrire pratiquement les choses, mais d'essayer même d'être prédictif à travers justement des modèles. Donc voilà, on a cette économie comme doctrine, comme théorie économique. Il existe une histoire de ces doctrines, de ces théories, une histoire des sciences économiques avec quelques grands noms de théoriciens, en prenant dans toutes les tendances d'Adam Smith à Karl Marx, en passant par les auteurs que vous pourrez envisager. Donc c'est pas le lieu ici de faire l'histoire de l'économie, mais c'est de dire qu'il y a un arrière-plan qu'on ne peut ignorer. Il y a une histoire des théories et des doctrines économiques, comme il y a aussi une histoire de la pensée sociale chrétienne ou de la pensée sociale de l'Église qui a eu aussi à se prononcer sur un certain nombre de ces modèles, de ces théories. Alors on verra comment se prononcer. Ce n'est pas la question d'un corps de connaissances comme tel qui peut en soi poser problème, mais sans doute l'usage qu'on en fera, on verra ça dans quelques instants. Donc vous voyez, premier plan, le plan des doctrines et théories économiques. Le deuxième plan, qui est un peu plus subtil, mais qui est tout à fait important, je pense, dans un travail de questionnement, c'est de considérer le plan de l'économie comme représentation du monde. L'économie est une façon de se représenter le monde. La représentation économique est aujourd'hui, il faut bien en être conscient, et je pense que vous êtes conscient de cela, la représentation dominante, voire qui se voudrait exclusive du monde. Et ce, à la différence de ce qui a pu exister dans ce que les anthropologues appellent des sociétés traditionnelles, où justement la représentation du monde était d'abord spontanément religieuse. Alors, pas au sens de la représentation religieuse de nos monothéismes, mais de ces religions premières, c'est-à-dire, comme le disent aussi certains anthropologues, d'un monde enchanté où effectivement l'homme n'avait pas la compétence technique ni les connaissances économiques pour essayer d'avoir une maîtrise sur ce monde et était donc dans une représentation globalement religieuse, parfois on l'appelle aussi magique, de ce monde. Mais aussi, pour prendre un autre exemple de contexte social où il y avait une autre représentation du monde qui n'était pas qu'économique, notamment dans la valorisation, c'est bien évidemment le contexte de la Grèce antique, où vous savez, l'idéal, c'était celui de la polis, et donc polis, la cité, et donc l'idéal, c'était, vous le savez bien, celui de l'homme qui était l'homme politique, et on n'était pas dans un idéal de l'homo economicus. Ce qui était intéressant dans le monde, c'était de voir ce qui s'y jouait dans les affaires de la cité, mais au sens de la politique et non de l'économie. Et donc l'économie, donc vous savez que la racine c'est oikonomia, ça venait de la gestion de la maison, des affaires familiales, des affaires privées, qui étaient des grands domaines. Mais preuve que ça n'était pas le must de la représentation valorisante de ce qu'on pouvait faire dans le monde, c'est que même pour les grands domaines, on confiait souvent à des esclaves le travail de la gestion économique. Évidemment, on n'est plus dans ce contexte aujourd'hui. Donc voilà, le plan de l'économie comme représentation du monde, deuxième grande façon d'aborder l'économie, peut-être pour la questionner. Troisième façon troisième plan pour ces pratiques économiques, troisième façon d'aborder ces réalités, ce sont bien évidemment les pratiques économiques. Ces pratiques bien réelles qui concernent des institutions financières, bien sûr, mais pas que, qui concernent des individus, mais pas aussi que les patrons de multinationales ou que les traders, mais qui concernent tout un chacun à partir du moment où on n'est pas dans la plus totale exclusion. Et vous connaissez les domaines de base dans lesquels s'exercent ces pratiques. Il y a tout le champ de la consommation, le champ du travail lié à la production, celui de la division du travail et de la répartition à la fois des logiques de production et des richesses, et celui de l'échange. Alors, voilà, d'un point de vue éthique, on peut effectivement interroger ces pratiques. Notez donc que si on parle de pratiques économiques, il y a à la fois des pratiques collectives, mais aussi des pratiques individuelles. Et c'est vrai qu'en éthique chrétienne, on a plus souvent et plus spontanément parfois tendance à s'exciter sur des questions d'éthique individuelle, mais justement pas dans le champ de l'économie. L'idée qu'il puisse y avoir des fautes individuelles, qu'en régime chrétien on appelle des péchés dans le champ de la vie économique, c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Je ne pense pas, déjà il y a plus grand monde qui se confesse, que ça sature les confessions de parler des fautes économiques qu'on fait à titre individuel quand on n'est pas tout à fait au clair avec telle ou telle pratique. Voilà. Donc si vous voulez, toute personne a des choix donc minimum à faire quant à ses modes de consommation, de production, de partage, autant que la société dans son ensemble, et on peut interroger ces pratiques. À noter aussi que j'ai parlé de la société des individus, qu'il y a tous les corps intermédiaires, tous les groupes sociaux, dont les églises, et singulièrement l'église catholique, qui sont ici concernés en tant qu'acteurs économiques et qui peuvent s'interroger sur leurs pratiques, qui ne sont pas toujours forcément exemplaires. Voilà, donc interroger l'économie, c'est pas simplement l'interroger de l'extérieur, c'est se dire aussi qu'on est tous aussi des acteurs de cette économie. Alors pour avancer, évidemment, un des points qui fait difficulté, c'est le suivant: a-t-on le droit d'interroger l'économie? C'est ces rapports qui ne sont pas évidents entre éthique et économie. Car le débat consiste ici à se demander si l'économie doit ou peut être un lieu de réflexion éthique. Est-ce que c'est légitime? Alors ma réponse, oui, elle est évidemment oui. Mais il faut savoir que dans ce champ particulièrement, il y a des tenants du principe, qu'on pourrait appeler idéologie à mon avis, de l'économisme. Qu'est-ce que c'est que l'économisme? C'est cette idée que l'économie est un domaine purement technique et neutre déjà, et que donc on ne peut envisager de porter un jugement de valeur sur l'économie et ses réalités que de l'intérieur. C'est une affaire d'économiste. Et donc il ne peut y avoir d'évaluation extérieure, de regard éthique porté d'ailleurs. Remarquez qu'on trouve ce genre de difficulté dans d'autres domaines techniques où on dit, voilà, si vous n'êtes pas des professionnels ou des spécialistes de cette réalité, vous n'êtes pas qualifiés pour porter un regard, une évaluation éthique sur les réalités que ça recouvre. Mais sur le postulat selon lequel effectivement l'économie serait éthiquement neutre, on peut ici suivre, je donne l'exemple d'un économiste chrétien, Étienne Perrot, que certains connaissent peut-être, et qui, pour débusquer cette fausse prétention à une économie neutre, revient sur la notion symbole par excellence de l'économie qu'est l'argent. Et il rappelle ce que tout le monde, même si on n'a pas fait des grandes études d'économie, nous savons, ou on l'a entendu un jour, les grandes fonctions classiques de l'argent, ou plutôt de la monnaie au sens technique, à savoir être un moyen d'échange, une réserve de valeur et une unité de compte. Eh bien, voilà, Perrot se demande, face à ces fonctions, si l'on peut tenir que l'argent ne serait donc qu'utilitaire, si ça ne serait qu'un instrument purement fonctionnel, et qui, par exemple, on fait parfois cette analogie, permettrait, par exemple, de mettre de l'huile dans les rouages du marché, et donc que ce serait un outil moralement neutre, selon l'usage qu'on en fait. Est-ce si sûr? Eh bien, si l'on suit Perrot, la réponse est négative, car dans toutes les fonctions, d'une façon ou d'une autre, et plus ou moins qui ont été rappelées, On s'aperçoit que le cœur du symbole de l'activité économique, à savoir l'argent, la monnaie, fonctionne entre les hommes comme quelque chose d'éminemment relationnel. À savoir, là aussi techniquement, on parle d'une créance à vue, c'est-à-dire de quelque chose dans lequel se joue une relation de confiance différée entre deux acteurs, entre deux personnes, ou avec un tiers qui va garantir cela. Il n'est pas ici besoin de revenir sur tout aussi ce qui a pu être dit et écrit sur la dimension crise de confiance liée à la crise financière économique qui s'est installée et donc qu'on a souligné à l'envi. Donc vous voyez, je suivrai assez volontiers là-dessus Perrault en disant que la légitimité de l'interrogation éthique sur l'économie est une évidence si l'on considère que le cœur du fonctionnement de l'économie concerne des relations humaines, des jeux d'échange et des logiques de confiance. Donc les chrétiens, avec d'autres certes, tiennent qu'il est légitime d'interroger l'économie. Mais je dirais le combat même de tenir cette posture n'est jamais complètement gagné. Car très vite, voilà, on risque de se trouver disqualifié par avance sur la propension qu'on aurait à vouloir s'exprimer sur pour donc questionner cette économie. Donc j'en viens au point suivant logiquement. Voilà, si l'on s'autorise, donc lorsque la pensée chrétienne vient interroger l'économie selon plusieurs points de vue, eh bien c'est ce que les chrétiens et l'Église, singulièrement l'Église catholique avec son enseignement social, qu'on appelle parfois la doctrine sociale de l'Église, c'est en cela qu'effectivement l'interrogation va venir jouer sur ces trois points de vue. Donc je vais reprendre ces trois points de vue et voir quel type d'interrogation on peut poser et quel type d'interrogation sont posées depuis un certain temps classiquement au niveau de ces trois plans. Lisez pas pour l'instant la citation que j'ai mise au bout, mais voilà, j'en suis au point, les interrogations sur l'économie en tant que doctrine et théorie. Alors, soyons clairs, la pensée sociale de l'Église, ou toute pensée chrétienne, n'interroge pas le corps de connaissance lui-même dans sa légitimité. Il est normal qu'il y ait des sciences économiques, un corps de connaissance, de savoir, d'enseignement, de recherche constitué, aucun problème. Ce qui est par contre possible, pour employer un mot un peu technique, c'est de questionner les bases épistémologiques, c'est-à-dire les bases, les conditions de validité de ce discours, même comme discours scientifique. Déjà, pour rappeler ce qu'on a tendance parfois à oublier, que tous les bons scientifiques savent, c'est qu'en économie comme ailleurs, on travaille avec des théories qui essayent de rendre compte du réel, mais qui ne sont pas le réel. Et c'est justement la caractéristique d'une théorie scientifique, comme disent certains philosophes des sciences, que d'être falsifiable, c'est-à-dire de pouvoir mettre mis en défaut. Sinon, on est dans un argument d'autorité. Donc une théorie vaut dans la mesure où elle ne peut pas être réfutée par une meilleure théorie pour rendre compte d'une réalité. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est ici dans des théories qui peuvent avoir des conséquences en termes d'application, qui peuvent être retenues pour des modèles applicatifs par des personnes qui sont en situation de pouvoir politique ou économique. Ce sont des théories qu'on va utiliser de façon prédictive et qui touchent évidemment la vie des hommes. Donc vous voyez bien, on peut faire, si on veut, un parallèle avec les sciences biologiques dans le domaine de la médecine. C'est pas la même chose quand on est dans des modèles descriptifs et quand on va utiliser des connaissances scientifiques, des modèles, y compris médicaux, pour commencer à avoir une pratique auprès de patients, les appliquer. Là, on rentre dans d'autres réflexions de type bioéthique. Eh bien, il en est de même en économie. On peut faire du moins une analogie. On peut aussi questionner l'économie en tant que doctrine et théorie autour des hypothèses anthropologique, c'est-à-dire touchant à l'homme sous-jacente. Je vais donner un exemple. On peut, par exemple, avoir des théories qui implicitement vont dire que le collectif va primer sur l'individu, au point d'accepter éventuellement de sacrifier cet individu. Et donc on a un certain nombre de théories qui ont en fait une éthique implicite qui est bien connue dans le domaine de la philosophie, qu'on appelle l'utilitarisme. Qu'est-ce que c'est l'utilitarisme ? C'est que ce qui vaut, c'est ce qui va permettre d'obtenir la plus grande utilité ou le plus grand bien pour le plus grand nombre. Mais le corollaire de ça, c'est qu'on accepte qu'il y ait de la casse, des laissés pour compte. Hein ? Donc vous voyez comment certains modèles, implicitement, bien sûr, vont pas peut-être mettre en avant cette éthique, mais ont une certaine éthique et renvoient même à une certaine conception de l'homme, notamment dans l'articulation entre le collectif et le particulier, qui n'honore pas ce qu'on voudrait évidemment préserver du point de vue de l'individu. A contrario, vous pouvez aussi avoir des théories qui vont maximiser la liberté individuelle au point qu'on va absolutiser la liberté de choix de chacun, quelles qu'en soient les conséquences au niveau du collectif. Donc voilà, il faut toujours essayer de décrypter, je dirais, les anthropologies ou les éthiques sous-jacentes à tel ou tel modèle, telle ou telle doctrine économique. Et c'est là que, effectivement, la doctrine sociale de l'Église, pour la nommer, dit bien que quand elle est en débat avec ses doctrines ou théories, enfin dans les grandes lignes, parce qu'on débat pas les, on parle vraiment de grandes orientations, hein, voilà, type les théories libérales ou les théories d'économie planifiée, c'est là qu'on peut se tourner vers ce qu'en disait par exemple Jean-Paul II dans, là vous avez le texte au tableau, dans une encyclique sociale anniversaire importante, hein, Centesimus Annus, en 1991, qui fêtait le 100e anniversaire de ce qu'on date être le début historique de cette doctrine sociale de l'Église, avec Rerum Novarum en 1891. Donc, vous voyez, une encyclique qui faisait le point sur 100 ans d'enseignement social de l'Église, et qui disait bien, voilà, ça me semble important pour notre propos, la pensée, je lis ce que vous avez sous les yeux, la pensée aux doctrines sociales de l'Église catholique n'est pas une troisième voie entre le capitalisme libéral et le collectivisme marxiste, ni une autre possibilité parmi des systèmes moins radicalement marqués. Elle constitue une catégorie en soi. Donc comprenez, ça n'est pas une autre théorie, ce ne sont pas d'autres modèles qui feraient nombre avec les modèles économiques qui sont mis en concurrence ou proposés comme solution alternative. Important aussi, Jean-Paul II continuait en parlant de cette pensée, elle n'est pas non plus une idéologie, mais la formulation précise des résultats d'une réflexion attentive sur les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la société et dans le contexte international à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Il concluait dans ce numéro, son but principal est d'interpréter ces réalités en examinant leur conformité ou leur divergence avec les orientations de l'enseignement de l'Évangile sur l'homme et sur sa vocation à la fois terrestre et transcendante. Elle a donc pour but d'orienter le comportement chrétien. Voyez donc, l'Église, quand elle prend la parole au nom des chrétiens sur ces questions, n'indique pas elle-même de modèle ou de solution clé en main, mais elle s'autorise seulement à critiquer, je dirais, les limites des théories et des approches économiques par rapport à leurs présupposés et à leur application, et ce au nom de la seule expertise qu'elle se reconnaît. Et quelle est-elle, cette expertise ? Eh bien, c'est celle d'une experte en humanité, pour reprendre la formule de Paul VI, un autre pape qui parlait dans les assemblées publiques, on fera bien sûr une allusion tout à l'heure au pape François à Strasbourg, devant le Parlement européen, mais là, Paul VI, vous connaissez sans doute son passage à la tribune des Nations Unies en 65, voilà, qui avait cette formule, et qui finalement légitimait sa prise de parole face aux responsables politiques, mais aussi économiques, eh bien, au titre d'une expertise en humanité. Et ce faisant, eh bien, il voulait exprimer ce tournant important qu'a constitué Vatican II dans l'intérêt de toutes les choses de ce monde, avec cette formule inaugurale que vous connaissez sans doute de la constitution pastorale Gaudium et Spes, selon laquelle les joies et les peines, les tristesses et les angoisses des hommes, mais des pauvres surtout, ajoute le texte, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Voilà ce qui habilite l'Église ou les chrétiens à interroger l'économie jusque dans ses formulations, ses doctrines et ses théories. Voilà. Alors après, est-ce qu'on est capable d'interroger dans leur formalisation mathématique toutes les théories économiques? Là, il faut avoir une certaine expertise. Mais je crois qu'il faut faire très attention à ne pas accepter le critère d'une expertise requise dans ce domaine pour pouvoir porter un regard interrogatif au nom de l'homme. Concernant le deuxième plan, qui est celui donc des représentations du monde, ou d'une représentation globalisante du monde. Donc, quelles interrogations peut-on envisager? On l'a vu donc derrière les connaissances, les doctrines, les théories, il y a des prétentions à des représentations exclusives du monde, des représentations qui deviendraient en quelque sorte intouchables. Et on en vient, par exemple, à penser que l'économie mondialisée, telle qu'on la connaît, ne peut être autre. Il ne peut pas y avoir autre chose. Et qu'aucune régulation politique, étatique ou même supra-étatique n'est envisageable. On en vient aussi, par exemple, à penser que si quelqu'un n'existe pas au regard des critères de l'insertion économique, par le biais de la consommation, du travail et donc de la production, etc., eh bien qu'il n'existerait pas. Et il me semble significatif que des sociologues eux-mêmes aujourd'hui travaillent sur des thèmes qui ne sont pas simplement des thèmes universitaires, qui touchent à des réalités douloureuses. Je pense par exemple à Guillaume Leblanc qui travaille sur le thème de l'invisibilité sociale. Et il est clair que qu'est-ce qui conduit des personnes à l'invisibilité sociale dans notre société qui a une représentation dominante du monde comme économique, c'est les personnes qui ne correspondent pas aux critères minimums d'une visibilité économique. Donc, c'est tout cela, c'est cette dimension de l'économie qui peut fonctionner comme idéologie totalisante dans la représentation du monde, avec ses axiomes prétendument indiscutables, pardon, que l'on peut s'autoriser à interroger. Dans la mesure, justement, où cette représentation, ces façons de fonctionner et envisager, empêchent, justement, une gestion correcte du collectif, ce que devrait faire l'économie, pour servir l'humain, c'est-à-dire servir l'humain. On peut ici rappeler aussi un leitmotiv de l'enseignement social de l'Église. On peut dire de l'économie ce qu'envisage l'enseignement social de l'Église au niveau du développement de l'homme, c'est-à-dire cela doit concerner, vous connaissez cette formule, tout homme, comprenez tous les hommes, et tout l'homme. Et donc, je ne développerai pas ici, mais pour donner des pistes de changement, comme on dit aussi dans le jargon de paradigme, c'est-à-dire de modèle général, qui vont avec ce modèle englobant actuel, on pourrait très bien envisager, et certains le font, des économistes eux-mêmes, eh bien de subvertir certains de ces éléments qui semblent absolument intangibles dans la lecture qu'on en fait. À savoir, j'ai mis quelques couples, voilà, la dimension d'argent versus gratuité, le marché tel qu'on le connaît versus des figures d'échange. Et il existe, hein, vous avez déjà dans cette quinzaine vu des propositions alternatives. Le couple rentabilité versus solidarité, la concurrence versus organisation collective, la croissance versus écologie. Donc vous voyez, on a un genre de portrait robot, non seulement une représentation unique, mais une représentation unique d'un seul type d'économie avec des caractéristiques qui semblent absolument intangibles pour qu'on puisse parler d'économie. Eh bien, il faut s'autoriser à essayer d'attaquer à la racine, bien sûr avec la rigueur voulue, les éléments de cette représentation dite évidente de ce qu'est l'économie et de ce que doit être l'économie dans le monde d'aujourd'hui. J'en viens aux interrogations qu'on peut faire au troisième plan, qui est celui des pratiques économiques. Vous allez me dire, c'est peut-être le plus évident quand on parle d'éthique. L'éthique, c'est effectivement la réflexion sur les pratiques. C'est d'ailleurs pas simplement le discernement, mais le but de l'éthique, c'est d'essayer d'agir bien. Voilà. Alors vous savez que une pratique comme le prêt à intérêt, historiquement, a donné, par exemple, lieu dans le passé à un positionnement de l'Église pour des raisons éthiques très claires. L'interdiction ferme, qui a été la règle au début du christianisme, qui a perduré très longtemps, qui a certes été modifié, qui a évolué au vu de l'évolution de l'économie. Mais c'est vrai que l'histoire de ce souci éthique sous-jacent à l'enseignement d'Église sur le préintérêt est tout à fait révélateur d'une interrogation éthique sur une pratique qui remonte aux Écritures elles-mêmes. Vous avez aussi les modalités de production ou de consommation qui sont autant de lieux qui invitent eh bien, les individus, les collectifs, les communautés chrétiennes à se situer. Et je le redis ici, voilà, l'Église aussi en tant qu'acteur économique, les communautés ecclésiales se posent et doivent se poser la question de leur pratique interne, dans la gestion de leur patrimoine matériel, mais aussi comme employeur. Il est aussi nécessaire, et ça se fait de plus en plus, d'avoir une réflexion éthique toute particulière sur le volet de la finance, autour des choix de placement notamment. Et encore une fois, ce sont des choses qui se font et qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les questionnements éthiques qu'on peut avoir sur ces pratiques, mais je préfère me tourner, puisqu'il me faut être synthétique, vers cinq grandes pistes que proposait un économiste dominicain, qui était aussi théologien, Hugues Puel, qui vit toujours, d'ailleurs c'est un vieux monsieur de l'école de Lyon, là, de ces personnes qui ont brillamment représenté l'enseignement et la pensée sociale de l'Église. Donc Hugues Puel, déjà au début des années 90, proposait cinq grandes pistes pour discerner autour des pratiques économiques que je vous ai remis sur cette diapo. Voilà, ce sont des grandes pistes, mais qui me semblent être des points de repère importants. Le premier, celui du refus de la fatalité. Voilà. Ça rejoint, vous comprenez, des choses que j'ai déjà dites sur le fait que on nous vend souvent en économie le fait que ça ne peut pas être autrement. Voilà. Eh bien, ce principe du refus de la fatalité, comme le dit Puel, c'est que même en situation économique complexe, et j'allais dire c'est un peu un pléonasme, parce que quand on se pose des questions, c'est un peu complexe. Si c'est pas complexe, on se pose pas de questions. Même en situation économique complexe, quand le poids des déterminismes peut sembler écrasant, ce qui est aussi le cas si c'est réellement complexe, voilà, eh bien, il y a toujours des espaces de liberté à repérer, des lieux où il est possible d'intervenir. Et de cela, effectivement, les chrétiens, qui ne trouvent peut-être pas toujours de meilleures des solutions magiques, mais voilà, je pense, moi-même, comme diacre, j'ai accompagné quelques années des chrétiens en responsabilité dans le cadre du MCC, le mouvement chrétien des cadres et dirigeants. On voit bien comment, dans le domaine de l'entreprise et de l'emploi, eh bien, ceux qui essayent de prendre au sérieux leur foi dans leur vie professionnelle, en responsabilité, eh bien, ils sont toujours à la recherche de ces espaces de liberté, même quand il y a des situations très lourdes, des licenciements, etc. Donc, on voit bien la différence entre celui qui, voilà, va pratiquement identifier les lois de l'économie à des lois de la physique pure et dure, et ceux qui vont dire, voilà, mais les déterministes sont peut-être pas aussi forts qu'on veut bien le dire, et il y a peut-être des espaces de liberté à repérer. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a effectivement de la complexité.